Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues, en effet, cette semaine, c'est la peau. Hier, passion épidermique et littéraire. Demain, des puces et d'autres petites choses techniques sous-cutanées. Jeudi, nous parlerons peinture et vendredi, couleur de peau à l'écran. Mais aujourd'hui, consultation dermatologique et histoire de moulage.
L'origine embryologique de la peau, c'est la même que le système nerveux. Donc, le même feuillet de l'embryon, même tout, qui donne le système nerveux, donne la peau. Donc c'est pour ça que la peau, c'est quand même pas... C'est un organe, c'est pas juste un petit revêtement comme ça. C'est important, la peau.
La peau est notre limite. Sans elle, nous ne serions qu'un amas d'organes dispersés. Impossible. Peut-on s'imaginer avec la rate d'un côté et le poumon de l'autre ? Toute chose qui se palpe a un contour. Les animaux, les chaises, les tables, les hommes, les arbres, même la mer et l'atmosphère. Seul l'univers n'en a pas et les idées non plus. Mis à part ces exceptions, pour exister, il faut être contenu. Le contenant est l'essentiel, le sac, le paquet, l'écrin. Et quand en plus l'homme invente le concept de beauté, la peau, parce qu'elle se voit, a un rôle encore plus important. Non seulement elle est l'enveloppe obligatoire de notre existence, mais ses caractéristiques en font un des éléments majeurs de l'esthétique. Ce sont les mots du professeur Maurice Mimoun dans son très bel article « La quatrième dimension de la peau ». Il est 14h passé de 2 minutes, bienvenue à vous dans les Nouvelles Vagues. À la fin des Nouvelles Vagues, tous les jours, nous avons la chance d'entendre quelqu'un partager un moment marquant. Cette semaine, c'est l'artiste Claude Lévesque qui se prête à ce jeu généreux. Il vit et travaille entre deux lieux au moins, son atelier maison près de Paris et la région de Nevers où il a grandi. Admirateur de Catherine Deneuve, il lui propose un jour de lui faire visiter cet endroit auquel il est très attaché. Il en fera un livre de textes et de photos, Nevers, Let Love In, paru aux éditions Dilecta. Une journée avec Catherine vers 14h50. C'est le deuxième moment d'une semaine d'émission épidermique. Hier, Emmanuel Richard nous parlait de son deuxième roman Pour la peau, passion amoureuse de 4 semaines racontée dans le désordre chronologique d'une mémoire qui cherche tant bien que mal à convoquer le sublime et l'absent. Aujourd'hui, c'est de l'organe dont il est question, l'organe le plus étendu et lourd du corps humain au regard de sa surface et de sa masse. Vos leçons de science n'étant jamais loin, vous remettrez parfaitement dans l'ordre le derme, l'épiderme et l'hypoderme. Entre superficie et profondeur intérieure et extérieure, visible et invisible, la dermatologie n'a pas fini de progresser ni de passionner. C'est d'elle dont on parle aujourd'hui car elle parle de la peau. Antoine Petit et Fabien Guibal, vous êtes tous les deux médecins dermatologues à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour et bienvenue. L'hôpital Saint-Louis à Paris qui abrite le plus vieux musée de moulage au monde. On entendra tout à l'heure sa responsable Christine Bergot nous raconter son origine. Mais avant cela, puisqu'on parle d'une spécialité de médecine, c'est donc que vous avez fait médecine tous les deux. À quel moment est-ce que vous la choisissez, cette spécialité ? Antoine Petit.
J'ai choisi la spécialité dermatologie au milieu de mon internat. C'est venu petit à petit au fil des rencontres, au fil de l'expérience clinique.
Qu'est-ce qui vous marquait dans ces rencontres et dans cette expérience clinique ?
Je pense que ce qui a été important, ce qui a été attirant pour moi, c'est la sémiologie, c'est-à-dire le côté déchiffrage, le côté possibilité, le côté enquête. Hein. On a un mystère qui se donne à voir, qui demande des signes, des hiéroglyphes, qui demandent à être déchiffrés. Ce sont les lésions cutanées et on va les regarder, les interpréter, les analyser et arriver à un diagnostic. Je pense que c'est des rencontres comme ça. J'ai rencontré au cours de mon internat des amis qui m'ont impressionné comme ça en regardant la peau et en en déduisant des tas de choses sur l'état de santé, un peu comme Sherlock Holmes quand on vient le voir.
Jeune médecin, vous hésitiez à choisir différentes spécialités comme chacun ?
J'ai voulu faire de la psychiatrie d'abord, et puis ensuite de la rhumatologie, de l'endocrinologie, des maladies infectieuses. Je pense qu'il y a vraiment un choix très large comme ça. J'ai papillonné un peu entre les spécialités, et c'est que très tard, effectivement, en milieu d'internat, donc... on va dire à la 8e, 9e année de médecine que je me suis fixé sur la dermatologie.
Fabien Guibal.
C'est encore plus trivial que ça, au sens où le jour des résultats de l'internat, j'étais placé en rang utile pour choisir dermatologie. Ce qui jamais ne m'avait semblé possible.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui n'ont jamais fait médecine? Être placé en rang utile?
Être placé en rang utile, ça voulait dire à l'époque qu'il y a un nombre limité de places d'internat pour être dermatologue et que donc il faut un certain rang de classement. Je ne m'imaginais pas du tout dans ce rang de classement et j'arrive devant les résultats et c'est m'est littéralement tombé dessus. J'ai mis après un petit moment où je suis resté vraiment saisi et quelques jours de réflexion, c'était pouvoir rentrer, comme disait Antoine, dans quelque chose qui m'était complètement hermétique. Il y a quelque chose de magique dans la dermatologie. C'est aussi parce que c'est très mal enseigné. À l'époque, en tout cas, les choses ont beaucoup changé parce que maintenant, les photos sont beaucoup plus disponibles. Mais comme on est dans une spécialité iconographique et que les photos étaient tellement difficiles d'accès dans les livres de médecine, on lisait des mots sans du tout visualiser de quoi on nous parlait.
Or, donc, ce que disait Antoine Petit, c'est précisément une science et une médecine d'abord de la vue et de la visualisation. Donc.
Exactement. Et donc, j'avais l'impression de rentrer, quelque chose d'alchimique, au sens où l'hermétisme avait quelque chose à voir dans cette affaire. Et puis, là aussi, hein, bien sûr, on a un peu tous les mêmes intérêts à la dermatologie, c'est que ça montre tout. Donc, toutes les spécialités, d'une manière ou d'une autre, permettent d'être abordées par la dermatologie. Moi, ma passion initiale, c'était les maladies infectieuses, depuis que j'avais 12 ans. Et je voulais être infectiologue depuis toujours. Je lisais des livres sur la peste, la syphilis et la dermatologie. C'est aussi la dermatovénéréologie, donc la spécialité qui s'occupe des maladies et des infections sexuellement transmissibles. Et donc, en particulier, de la syphilis, du chancre mou, toutes sortes de belles maladies qui, pour un étudiant à 20 ans, sont assez attirantes.
Alors évidemment, tous les spécialistes vous diront que leur spécialité est au cœur de la médecine. En même temps, c'est vrai que les dermatologues disent souvent que c'est un lieu comme ça de plateforme parce que c'est un lieu de symptômes, c'est un lieu visible qui peut renvoyer à bien des champs de la médecine. Dans votre pratique quotidienne de la médecine, vous êtes souvent renvoyé à cette place centrale de l'endroit qui peut faire signe et renvoyer vers d'autres médecines,
Antoine Petit ? Oui et non. Oui et non. Ça dépend un peu des orientations qu'on prend. Je pense que là, on a dit des choses un peu convergentes sur nos intérêts en matière de dermatologie, mais je pense qu'il y a d'autres raisons, peut-être, de choisir la dermatologie, parfois. Et ça dépend du mode d'exercice qu'on a. C'est effectivement cette idée que on va voir quelque chose qui va nous indiquer quelque chose sur la personne dans sa globalité, et y compris sur les autres systèmes, les autres organes, les autres maladies, les maladies. C'est quelque chose, la vitrine de l'intérieur, quoi. La surface vitrine de l'intérieur, c'est quelque chose qui anime beaucoup de pratiques et qui donne beaucoup d'intérêt aux dermatologues. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que on arrive assez vite à une sorte de paradoxe avec la dermatologie. Fabien a laissé entendre qu'il était très bien placé internat, ce genre de... Je n'en doute absolument pas. Effectivement, on a souvent, je vais dire entre guillemets, mais on a pas vraiment les mieux placés à l'internat. On a une spécialité qui est très bien choisie, donc comme on choisit les spécialités par ordre de classement, on a des très bons internes. On a des remarquables internes. Et en même temps, on a une spécialité qui a toujours à défendre un peu sa place, parce qu'il y a une sorte de manque de prestige qui est attaché à la fois à beaucoup de choses, mais qui est attaché à la fois au caractère de surface, superficielle, à la fois la très grande bénignité généralement des atteintes de l'organe. On a un organe qui est très important, vous avez dit que c'était le plus grand, mais c'est très rare que sa fonction soit compromise, qu'on soit en insuffisance cutanée comme on peut être en insuffisance cardiaque ou pulmonaire ou rénale. Et donc le caractère bénin, le caractère de surface, plus l'histoire de la dermatologie, qui a été une spécialité vraiment qui est née, qui est une des premières spécialités qui est née au 19e siècle et qui est très attachée au 19e siècle, très attachée à la description.
On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, on en parlera de l'histoire naturelle, bien sûr.
Tout ça, ça fait qu'on a à défendre, qu'on a une spécialité qui au départ est pas très prestigieuse. On a le paradoxe, il y a pas mal d'études sociologiques qui l'ont montré en s'intéressant au choix des étudiants en médecine, qui ont montré dans plusieurs pays occidentaux que au départ, la spécialité est tout à fait en bas dans le rang de prestige des spécialités médicales. Tout à fait en haut, vous avez les héros que sont les chirurgiens cardiaques, les neurochirurgiens, les cardiologues, etc. Et tout à fait en bas, vous avez les dermatologues avec les psychiatres et les médecins de santé publique.
Les petits docteurs.
Les petits docteurs.
On ne va pas
et
commencer à chamailler, hein, c'est pas l'objet.
Mais non, on est du même camp.
Bah oui, c'est pour ça.
Et en revanche, après, c'est très bien choisi. à cause aussi de l'image d'une spécialité confortable où on a peut-être moins souvent à faire avec la mort et avec l'urgence.
Juste revenir un instant, Fabien Guibal, sur l'enseignement. Vous disiez qu'au moment où vous choisissez cette spécialité, c'est une spécialité mal enseignée de par la difficulté d'avoir accès aux images. Ça a changé. Qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprenait au moment où vous faites votre spécialité et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend dans la spécialité dermatologie?
Ce qu'on apprend, ce qu'on essaye d'apprendre aux plus jeunes, pour utiliser cette expression qui veut dire en gros tous les étudiants qui soient, alors c'est un peu jargonneux, hein, mais les externes, les internes, les différents stades, du L1 jusqu'à l'équivalent de la thèse en nombre d'années de pratique, c'est de reconnaître des images. Et puis derrière, c'est une conversation qu'on a souvent tous les deux, après dessus on met des mots. Mais initialement, on voit bien que, c'est souvent ce que je dis à mes étudiants, c'est si j'essayais de vous dire une musique, à moins d'être de grands professionnels de la musique et de connaître parfaitement le solfège, si je vous dis « là », vous ne comprenez pas la note « là ». Ce ne sont pas les mêmes moyens de communiquer, pas les mêmes sens. Et pendant des années, par défaut de disponibilité des images, on s'est évertué à transmettre des images avec les sens qui n'étaient pas les bons. Donc maintenant, on a la possibilité de montrer des images, et de plus en plus, c'est essentiellement ça qu'on apprend à nos étudiants. À ça s'associe le fait que, d'une manière générale, l'enseignement change. Vous avez une question à poser, vous demandez votre téléphone portable, et en général, en un dixième de seconde, si vous avez bien posé la question, la machine vous répond. Et la machine vous répondra de mieux en mieux. C'était l'un des sujets, à ma connaissance, de France Culture sur le numérique. L'intelligence artificielle qui vient de battre un joueur de Go va être capable très vite de reconnaître des images. Pour l'instant, elle ne sait pas reconnaître des images. C'est trop compliqué, c'est trop variable, il y a trop de données, trop de variabilité.
Quand on parle d'images, on va raccorder, hein, ce sont bien des images de peau, on imagine des affections, des pathologies.
Tout à fait, on est d'accord. Mais c'est d'une variabilité infinie. Et c'est d'ailleurs l'un des intérêts aussi qu'on n'a pas abordé de la dermatologie, c'est qu'on est confronté tout le temps à tout ce que la médecine peut avoir de cas particuliers, de succession de cas particuliers, parce que finalement la différence, quelqu'un qui vient avec le visage rouge, il peut avoir simplement chaud, il peut avoir une maladie du système immunitaire qui peut éventuellement le tuer en l'espace de quelques semaines en détruisant sa peau et ses muscles. Et tout ça est sur un même continuum.
Ce qui vous laisse un peu de travail encore. C'est-à-dire que vous avez derrière l'analyse de l'image qui est la rougeur de la peau, tout le champ de la médecine qui va pouvoir dire ce que c'est que cette rougeur.
Mr. Treves, sir! They found him! I think they found John!
Ici un extrait d'Elephant Man de David Lynch, film qui sort en 1980 et dont vous me disiez, Fabien Guibal, qu'il est prévu qu'il ressorte, en tout cas dans une nouvelle version. Ces gémissements et la manière dont accourt le professeur à ce moment-là où le visage est dévoilé et laisse voir cette affection de la peau, ses grosseurs. Alors je ne sais pas de quel mal souffrait ce monsieur.
On a longtemps cru, on s'est longtemps dit entre nous, mais c'est un peu de la postériorité. Puis la définition des maladies n'est pas forcément très claire, et puis elle change au fil du temps, ce qu'on appelle une neurofibromatose, une maladie de la peau et du système nerveux, et finalement la description et l'analyse du squelette permet plutôt de considérer que c'est un syndrome de Protée, n'est-ce pas mon cher collègue?
Alors qu'est-ce qu'un syndrome de Protée?
Je te laisse parler.
On dit que c'est une maladie génétique, mais qui affecte quoi?
Qui peut affecter quasiment tous les organes. C'est, dans notre jargon, on appelle ça une génodermatose, c'est-à-dire une maladie génétique où la peau est au premier plan et entraîne le plus de complications qui altèrent le quotidien des patients, et c'est ce qu'on voit dans le cas d'Elephant Man. Mais ses os sont aussi très abîmés, ses articulations, certains organes profonds vont être abîmés, et le système nerveux aussi potentiellement. Et il porte le nom du dieu Protée, qui est le dieu qui change de forme, parce que les manifestations cliniques sont extrêmement variées.
Extrêmement variées et extrêmement visibles. Hein. On parlait tout à l'heure du rôle de la vue, de l'invisible et de l'invisible, et aussi de la multiple signification de signes visibles sur la peau qu'il vous appartient d'interpréter. Cette science de la vue, elle est parfois soumise à vos hypothèses. Lorsque des patients viennent consulter, lorsqu'on vous envoie des patients, est-ce qu'il arrive parfois qu'il soit difficile de voir ou que la question de « je vois ou je ne vois pas » soit absolument centrale, y compris pour le patient lui-même. Hein. Par exemple, le professeur Mimoun raconte que parfois il hésite à dire à son patient que lui ne voit pas la fameuse cicatrice ou la fameuse affection de la peau. Antoine Petit, sur cette question de voir.
Oui, on est parfois sollicité pour des lésions qui sont invisibles. Alors, pour des anomalies cutanées qui sont invisibles, on peut dire là schématiquement qu'il y a deux cas de figure. Il y a les anomalies qui donnent des symptômes, qui se manifestent sous forme de symptômes. Par exemple, ça me fait mal, ça me pique, ça me brûle ou ça me démange. Et là, il est tout à fait possible que on ne voit rien, ce qui n'empêche pas que la sensation du malade puisse être en général totalement véridique. Il ressent réellement une douleur, hein, alors qu'on ne voit rien sur la peau, c'est une situation qui arrive. On continue une enquête diagnostique.
Alors, comment
pour
vous
savoir
faites dans ces cas-là ?
Qu'est-ce qui fait mal ? Eh bien, on ne s'arrête pas au regard, en fait. Hein. C'est important, on a ouvert la discussion sur le regard, mais bien entendu que la dermatologie est une spécialité médicale comme les autres, qui utilise tous les outils entre guillemets modernes, tous les outils de la médecine, c'est-à-dire que on examine, on fait des radios, on fait des prises de sang, on fait des choses comme ça, et on se sert d'outils qui sont les outils modernes, les outils de demain, un petit peu, qui vont peut-être effectivement être utilisés par les ordinateurs sur la même qui sont en train de battre les joueurs de Go, c'est-à-dire des outils par exemple de biologie moléculaire, des outils comme ça qui permettent qui font que la dermatologie reste une spécialité moderne. Et même dans l'ordre de la modernité, de voir l'invisible, elle est même un petit peu au devant de la scène, parce que finalement la peau, c'est tellement facile à prélever, c'est tellement facile à biopsier, à prendre un petit morceau, à faire un point de suture, qu'on étudie facilement la peau, un peu au même titre que le sang. Et donc on a par exemple, dans les grandes avancées actuelles de la médecine, que ce soit ce qu'on appelle les maladies inflammatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas cancéreuses, et que ce soit les cancers, la spécialité dermatologique est au centre. Les grandes avancées de la cancérologie se font avec le mélanome. Les grandes avancées des traitements, par exemple, anti-inflammatoires, se font avec une maladie comme le psoriasis. Donc la dermatologie utilise tous les outils techniques, biologiques, d'imagerie, de la médecine, et est une spécialité éminemment moderne, avec un pied dans le passé.
Mais c'est la grande fierté. Et ça, sincèrement, c'est aussi, je crois, ça qui explique l'intérêt de la dermatologie auprès des étudiants, encore maintenant, en dehors des aspects de qualité de vie, de revenus, et effectivement de variabilité.
Les revenus sont très bas, Fabien. On fait partie des spécialités qui...
Ah, c'est un long débat. Bon. C'est de revenus horaires, on va dire.
Vous avez vu, j'interviens pas. Hein. Ça m'intéresse un tout petit peu moins. Mais...
Non, mais en l'occurrence, la profession médicale est influencée par ce genre de considération.
Et le parcours de chacun aussi.
Voilà. Et ça joue dans le succès que peut avoir une spécialité au fil du temps. Enfin, toujours est-il que quand vous posiez la question de le patient vous dit « je vois ». Et on ne voit pas forcément. Ça nous confronte, nous dermatologues, régulièrement aussi à la question du normal et du pathologique. C'est qui définit qu'il est malade ? Et on est tout le temps sur cette frontière. C'est un sujet là aussi dont on débat régulièrement tous les deux. Ça nous confronte à la notion que ça n'est pas forcément au médecin et encore moins au corps médical de définir la notion de maladie, de souffrance même, et que tout simplement le fait qu'avant c'était comme ça, et que maintenant, ça n'est plus comme ça. Pourtant, ça reste une variante de la normale. Une dame de 70 ans qui vient et qui dit « Regardez, docteur, j'ai une tache là. » Elle a passé toute sa vie au soleil. C'est le contraire qui nous étonnerait par habitude de voir la peau de quelqu'un de 70 ans. Mais elle, cette tache, elle n'a jamais eu. Évidemment, elle considère que c'est pathologique.
C'est aussi parce que, justement, cet organe est si visible qu'il est peut-être plus que les autres la marque du temps qui passe, la marque de nos vies, de nos expériences, des souffrances. Bien sûr, c'est un cas extrême, celui d'Elephant Man, que fictionnalise Elephant Man, mais c'est un cas de souffrance et de mal-être. Combien de personnes ont fait l'expérience de pas... C'est, on va parler de choses très bénignes, hein, mais de ne pas sortir de chez elles ou de se sentir pas très bien parce que sur la peau de leur visage ou de leurs mains, il y avait une marque qui les empêchait de se sentir correctement. Bien dans ce qu'on appelait, dans les mots du professeur Mimoun, cette fameuse enveloppe nécessaire.
Mais je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que les médecins ne doivent pas
participer. Je peux aussi vous laisser, hein, il est 14h20. Ah, voilà. Non, je vous en prie.
Ne doivent pas participer à la définition du normal et du pathologique. Je pense qu'on a...
Ils ne doivent pas être les seuls, pour reprendre vos mots.
On a un rôle éthique, on doit quand même aider à orienter un peu, parce que sinon, ça veut dire qu'on répond tout le temps à toute demande, et ça, ça serait pas bien.
On est d'accord. C'est une interaction permanente, voilà. Et c'est ça aussi justement l'intérêt de cette spécialité, c'est qu'elle impose un aller-retour permanent avec le patient pour comprendre, par opposition à un électrocardiogramme, c'est un électrocardiogramme au sens où il n'a pas grand-chose à dire. La peau d'un patient qui se plaint d'une modification qui pour nous ne serait pas forcément pathologique demande forcément d'autres renseignements que simplement la vue et...
Il y a un point qui est très important dans ce domaine, c'est effectivement que parallèlement, on développe de plus en plus des outils thérapeutiques, y compris agressifs, c'est-à-dire dangereux pour soigner des maladies qu'on estime altérer beaucoup la qualité de vie, altérer beaucoup le bonheur, en fait, les capacités d'interaction sociale, de trouver du travail, les capacités aussi de trouver de la vie sentimentale, la vie sexuelle, etc., sont très affectées par les ions de la peau. Et au fur et à mesure qu'on s'en rend compte de plus en plus et qu'on développe de plus en plus d'outils thérapeutiques, qu'on prend beaucoup plus en considération ces maladies de l'apparence, un peu, de simples tâches, comme le dit Fabien, au fur et à mesure, j'aime bien me dire qu'on développe aussi une tolérance. Il y a des campagnes, là, pour le handicap, par exemple, qui disent bien qu'il faut à la fois peut-être essayer de soigner, puis à la fois essayer de tolérer la différence. Ça, c'est vraiment important.
En préparant cette émission, dans le bureau, on a échangé, évidemment, sur nos différentes affections et aventures. Alors, ça va de l'acné de l'adolescence à des très gros coups de soleil ou des allergies. Et de faire l'expérience pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques années de sa jeunesse du regard d'autrui, du regard du collectif sur une peau qui déroge de la normale est une expérience qui interroge en effet la tolérance du regard public ou social sur des peaux qui ne sont pas la peau parfaite. Et alors ça, vous dites que ça bouge, Antoine Petit.
Alors, j'espérerais, je souhaiterais, j'étais très impressionné, comme beaucoup de gens, quand je suis passé devant une boutique de prêt-à-porter féminin il y a quelques mois et que j'ai vu Chantelle Brown Young, cette mannequin canadienne qui a un vitiligo, donc ces grandes taches blanches sur peau noire qui sont absolument extraordinaires. Je pense que cette jeune femme a beaucoup souffert, que maintenant elle milite, mais je pense que son militantisme, la manière dont elle affiche sa maladie, a un double sens à mes yeux. Le premier, c'est certes, il faut que la recherche médicale, la recherche thérapeutique continue et s'intéresse à cette maladie parce que sans quoi c'est un peu toujours la double peine pour les patients. À la fois,
on a dit qu'il s'agissait de grandes taches. Hein, vous
des grandes
dit.
Taches blanches, hein, alors, qui sont, dont le contraste est particulièrement saisissant quand on a la peau foncée, comme c'est le cas de cette jeune femme. Et ce que ça me dit, ce que ça nous dit, ce que ça devrait nous dire, à mon avis, c'est que à la fois il faut continuer la recherche, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver, il faut prendre en considération la souffrance de ces personnes et essayer de leur trouver des solutions médicales, mais à la fois en augmentant la tolérance de la société à ce type de différence,
la souffrance baissera.
La souffrance pourrait diminuer, et je pense que dans la lutte contre le vieillissement, avec tous les moyens actuels de la chirurgie plastique, etc. On a peut-être à réfléchir jusqu'où on va.
Troisième chose que nous dit cette campagne publicitaire, c'est que le marketing n'a pas de limite. Mais ça, c'est encore
une question. Justement, ça tombe bien. Il y a un problème, malgré tout, avec le handicap de l'anomalie cutanée. C'est qu'il génère une réaction qui est antérieure à la conscience qu'on peut avoir de l'anomalie. Il y a quelque chose d'instinctif. Quelqu'un qui a un handicap physique, par exemple, qui a du mal à se déplacer, ou quelqu'un qui souffre et qui a mal tout le temps, va pouvoir verbaliser et laisser un peu de temps à son entourage pour digérer la notion de ce handicap et effectivement dépenser l'énergie nécessaire à la tolérance. Être tolérant, ça consomme beaucoup d'énergie. Lorsque quelqu'un rentre dans une pièce avec une acné qui lui, c'est l'expression utilisée, mange le visage, la réaction, elle est quasi animale. Probablement d'ailleurs, alors les psychologues évolutionnistes vont vous dire, mais évidemment, c'est jaune, c'est rouge, ça ressemble à une maladie infectieuse, donc la première réaction, c'est de le mettre à distance.
Allez-y.
Le terme instinctif, je ne sais pas exactement comment tu le vois. On sait bien tous, par exemple, que les petits-enfants, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, en maternelle, sont extrêmement tolérants à toutes les formes de différences, y compris aux taches sur la peau. C'est quelque chose que savent tous les dermatopédiatres, notamment à propos d'autres types de taches, des taches rouges qu'on appelle des angiomes, des hémangiomes, etc.
Vous voulez dire que l'intolérance, ça s'apprend socialement ?
Je pense que l'intolérance s'apprend socialement. Et plus qu'instinctive, n'est pas si instinctive que ça, et que quand bien même elle serait totalement instinctive, ça s'éduque.
Ah oui, non, mais on est bien d'accord.
La peau de porc est dans l'ensemble quand même nettement inférieure à la peau de cadavre.
Et la culture de peau ?
Alors la culture de peau, c'est une voie qui n'est pas encore sortie de l'expérimentation, malgré ce qui a été fait à Boston en particulier, et les progrès, on n'est pas encore dans une utilisation journalière. Et c'est pourquoi la banque de peau est nécessaire. Je pense qu'elle va être fonctionnelle dans les semaines qui viennent. À l'heure actuelle, tout est pratiquement prêt. On a quand même pu, malgré cela, faire notre premier prélèvement la semaine dernière.
Comment se fait la conservation de la peau ?
Elle se fait essentiellement par des méthodes de réfrigération qui permettent de la stocker à basse température et de la conserver pendant longtemps. Ça peut être d'une façon quasiment indéfinie, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'au fur et à mesure que passe le temps, les résultats de la prise sont dans l'ensemble moins bons et il y a intérêt à l'utiliser au cours du premier mois.
Avant de revenir sur l'archive d'Interactualité 1984 qu'on a entendu avant cette musique, je vous laisse Antoine Petit nous dire de quoi il s'agit, cette musique.
Ghost Rhythms, c'est un jeune groupe de jazz que j'aime beaucoup, qui fait de l'excellente musique et que je vous invite à découvrir.
Avec un titre qui s'appelle Three Ashes. Juste avant
l'album
donc...
L'album Madeleine.
C'était un très joli prénom. C'était un Interactualité datant de 1984 et qui parlait de la culture de peau n'en étant qu'à ses expérimentations. Alors, plus de 30 ans sont passés. Est-ce qu'on cultive de la peau aujourd'hui ? Et quelles sont les très grandes avancées, mais en étant, sans trop toucher à votre micro, en n'essayant pas d'être exhaustif, qui vous passionne aujourd'hui ?
La culture de peau, oui, il y a de la culture de peau, il y a de la culture de peau en recherche. Au plan thérapeutique, je crois que c'est vraiment pour les spécialistes en brûlure qui font. Alors, c'est pas un domaine qui est vraiment un domaine de dermatologue, clinicien, praticien. C'est pas le domaine sur lequel qui nous passionne actuellement, nous, d'un point de vue médical. On est là dans la réparation plutôt d'un point de vue chirurgical et du point de vue des soins aux brûlés.
Où est-ce que vous placez votre plus grand intérêt ou espoir alors dans la pratique quotidienne, des choses qui vraiment pourraient révolutionner votre science ou le font déjà ?
Ce qui est bien, c'est que c'est sur plusieurs fronts en même temps, donc on peut faire nos choix. Comme le disait Antoine, ce qu'on appelle les maladies inflammatoires. Je ne sais pas si les gens verront ce que c'est, mais il y a une maladie qui touche 3% de la population qui s'appelle du psoriasis. Ça donne des grosses plaques rouges avec des squames, c'est très affichant. Et parfois même, ça atteint les articulations, et là, ça devient très handicapant d'un point de vue moteur et pas uniquement social. Voilà une maladie pour laquelle les dermatologues étaient tellement impuissants qui ne voulaient pas s'en occuper. Parce qu'il ne faut pas oublier que les médecins aiment bien être efficaces, et lorsqu'une maladie leur résiste, et c'est aussi trivial que ça...
C'est la faute du malade.
Voilà, non mais quasiment. Et donc, jusqu'au début des années 2000, personne ne voulait s'occuper des patients qui avaient une maladie chronique, qui étaient tout le temps en train de se plaindre et pour lesquels on n'avait jamais de solution satisfaisante. Et du jour au lendemain, arrivent des médicaments qui sont issus du travail sur le système immunitaire et qui n'étaient pas du tout destinés à la dermatologie au départ, qui ne concernent pas assez de patients pour que ça motive les investissements de l'industrie pharmaceutique. Mais on se met dans le couloir d'aspiration, on a l'habitude, hein, ça fait quelques décennies qu'on fait comme ça, et on profite, puisque la plupart des maladies de peau inflammatoires correspondent à une anomalie de fonctionnement du système immunitaire. Et on a vu des patients qui nous disaient, et je peux vous dire que pour un médecin, c'est une satisfaction dont on ne se lâche jamais, « Docteur, c'est magique. » Je cite « Docteur, c'est magique. » Et effectivement, pour une fois, on était d'accord avec nos patients sur le résultat. C'était magique. Des gens qui, depuis 20 ans, n'avaient aucune solution, se retrouvaient avec une peau dont ils avaient oublié qu'elle pouvait avoir cette apparence. Avec, après, la difficulté de revenir en arrière, comme toujours, hein, puisqu'on s'habitue à la meilleure des situations. De l'autre côté, comme Antoine l'évoquait tout à l'heure, il y a l'aspect cancer. Avec ce cancer, ce fameux grain de beauté qui se transforme et qui fait tellement peur à tellement de gens qui consultent dès qu'une tache apparaît, et pas forcément à tort. C'est loin de moi l'idée de dire aux gens ne consultez pas. Non, c'est sûr qu'une tache noire qui se modifie, il faut savoir demander l'avis d'un médecin. Jusqu'à il y a encore une petite dizaine d'années, c'était à partir du moment où la maladie était diffusée au-delà de la peau, un arrêt de mort. À plus ou moins long terme, c'était au maximum quelques années. Et maintenant, on voit, année après année, l'espérance de vie de ces patients grâce à de nouveaux traitements s'allonger de mois en mois. C'est la cancérologie, hein, c'est pas tout d'un coup on arrive à sauver tout le monde, mais ce sont des progrès qui étaient inimaginables à tel point que là aussi, beaucoup de gens...
Sur une échelle de 10 ans, hein, ce que vous disiez il y a 10 ans.
Et c'est ça aussi qui est fascinant pour nous, c'est l'accélération des processus. On a tous les deux un âge qui tient du demi-siècle à peu près.
T'es un peu jeune.
Et on a malgré tout un petit peu de recul. On se souvient tous les deux de la vitesse à laquelle les choses avançaient pendant notre internat et pendant le début de notre pratique médicale. Tous, on en est obligés à se spécialiser de plus en plus, même si la spécialisation a d'autres objectifs, en particulier la zone de confort du médecin. Hein, c'est très très pratique d'être tout seul dans un domaine, personne ne va vous embêter. Mais là, on n'a pas trop le choix, parce que de toute façon, il se passe tellement de choses en même temps que c'est beaucoup plus un travail. Historiquement, le médecin décide seul, et le plus souvent seul face à son patient. C'est plus possible. C'est de plus en plus des médecins ensemble qui vont partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs réflexions. Et ça, c'est un grand progrès. On a encore beaucoup de boulot, mais je trouve que là-dessus, on avance.
On a cité l'hôpital Saint-Louis à Paris, où vous exercez tous les deux. Il se trouve que c'est un hôpital où la dermatologie a une place très importante. Sur ce plan de la recherche, de l'échange, de la progression, ça se passe comment concrètement pour vous, quotidiennement? C'est-à-dire que vous avez vos patients, il y a des consultations, mais comment vous vous spécialisez? Comment vous continuez à étudier? Comment vous vous tenez au fait des très nouvelles, toutes neuves et pertinentes technologies?
On est dans un service, j'allais dire, qui a une très grande surface, dans lequel il y a beaucoup de médecins. On a une équipe riche en variété aussi de pôles d'intérêt, avec ce qu'on appelle un recrutement de malades, c'est-à-dire une diversité de patients, qui sont souvent des patients qui viennent en deuxième, troisième ligne, après avoir vu d'autres spécialistes, d'autres dermatologues avant. Et on a de multiples réunions. Et puis ce service qui est donc très riche. Il est adossé à un grand centre de recherche sur la peau, donc là de recherche biologique, plus spécifiquement avec quelques orientations plus spécifiques, notamment sur le système immunitaire, sur les lymphocytes, sur les proliférations de lymphocytes qui sont des globules blancs, hein, qui donnent des sortes, on va dire schématiquement, de leucémie dans la peau, de lymphome cutané, qui est une des spécialités importantes, une des sous-spécialisations importantes du service. Et sur le plan clinique, c'est-à-dire des soins qu'on donne aux malades et pas de la recherche biologique, il y a aussi une très grande variété, une très grande richesse liée au passage d'abord des internes, des chefs de clinique qui changent régulièrement et puis des stagiaires venant un peu de tous les pays. Alors tout ça s'organise au cours d'échanges. On a plus de réunions médicales qu'on pourrait, qu'on peut assister. Quoi. On a des réunions plusieurs fois par semaine. Il y a des réunions tous les mardis matins, tous les jeudis matins, tous les vendredis après-midi, plus les réunions spéciales pour la recherche. Et voilà. Donc il y a une très grosse activité d'échange, plus une activité d'échange direct pour l'activité clinique, pour le soin au patient, devant le patient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consultations qu'on lui en même temps et les médecins circulent volontiers d'un endroit à l'autre pour donner des avis en direct pour que plusieurs médecins puissent voir la même personne, le même patient.
Ou juste plus en détail, il y a 70 000 patients qui consultent chaque année uniquement dans cet hôpital.
Donc, en dermato.
En dermatologie. Uniquement en dermatologie, et il y a 80 médecins consultants, ce qui, pour une spécialité de cette taille, représente effectivement une grande équipe. Le jeudi matin, les dermatologues confrontent leurs avis à l'avis du, ce qu'on appelle du pathologiste, celui qui regarde au microscope. Et les deux équipes échangent leur point de vue pour arriver à un diagnostic, ce qu'on appelle une confrontation anatomoclinique. C'est très jargonneux, mais ça veut bien dire qu'il y a la clinique, notre œil, et puis il y a le microscope, l'anatomie de la peau, et on essaye de faire en sorte que ça croise, parce que, bien sûr, on ne sait pas toujours, et eux non plus. Le vendredi matin, 120 dermatologues installés dans leur cabinet ou pas, qui viennent partager des cas présentés par Antoine, justement, et avec ce jeu permanent, parce que c'est une spécialité, je ne l'ai pas encore dit, mais qui, est, à nouveau, pour revenir à votre première question, est une des raisons pour lesquelles elle est choisie, c'est que c'est très ludique. On montre une image et vous voyez tout le monde qui fait « c'est ça, je sais ». Et on ne s'en lasse pas. Comme des enfants, on a ce plaisir d'arriver à un diagnostic instinctif. Je reviens sur ce terme. Et puis, après-demain, on a une réunion de bibliographie. On va faire lire des articles par les internes. Ils les analysent. Ils nous en donnent les limites. Ils nous en donnent les apports. Et ça, jour après jour.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Antoine Petit, Michael Jackson, d'une part pour se rappeler collectivement que cet homme était un génie musical et aussi pour parler d'une partie de vos recherches, en tout cas une partie à laquelle vous avez consacré un article, à savoir la dépigmentation volontaire et le rapport de honte et de détour et de tour de la honte autour de la couleur de peau. Black or White chante Michael Jackson. Alors déjà, est-ce que lui se dépigmentait la peau volontairement ?
Ah, je suis pas dans le secret, mais il a dit qu'il se dépigmentait avec une technique qui est utilisée justement parfois pour compléter la dépigmentation chez des gens qui ont des vitiligos, cette fameuse maladie qui donne des taches blanches. Lorsque c'est très étendu, certaines personnes se disent, plutôt que d'essayer de faire repigmenter les taches malade, on va essayer de dépigmenter la peau normale. Et donc Michael Jackson disait qu'il avait un vitiligo, que c'était la raison pour laquelle il avait peut-être fini de dépigmenter sa peau. Je ne sais pas si ça convainc tout le monde.
Dans cet article que je cite, vous citez vous-même Frantz Fanon, qui cite d'ailleurs d'autres personnes, et vous dites à quel point ces textes sur la couleur de peau et sur le rapport de l'individu à sa couleur de peau sont des textes prémonitoires. Il disait qu'allaient arriver des possibilités chimiques de changer la couleur de peau. Or, ces possibilités chimiques sont arrivées, et on voit dans n'importe quelle boutique à Châteaurouge à Paris la possibilité d'acheter des crèmes, même à La Chapelle. Aujourd'hui, quelle est l'étendue de l'usage de ces produits dans le monde?
On ne le sait pas exactement parce qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques très bien faites, mais on commence à voir quelques études. Il y en a eu quelques-unes, notamment en Afrique subsaharienne. Ce qu'on sait, c'est que les produits sont vendus, des produits pour éclaircir la peau sont vendus dans le monde entier. Ça, c'est sûr, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit aux Philippines, dans toute l'Indonésie.
Et parfois dans les toutes petites échoppes au fin fond du monde.
Et au fin fond du monde, dans des toutes petites boutiques, et dans des grandes villes, et dans toutes les villes européennes et américaines.
Oui. Quels sont ces produits ?
Il y a plusieurs produits. Il y a des produits peut-être qu'on connaît pas très bien. Il y a des produits qui font partie de l'environnement domestique qui servent à brûler un peu. On peut mettre des liquides vaisselle, des défrisants, du sable, du ciment, des choses un peu terribles comme ça qui brûlent un peu. Et puis les trois grands types de produits qui sont utilisés. Premier sont les pommades à base de cortisone. La plus forte des pommades à la cortisone, on l'appelle le clobétasol. C'est vraiment quelque chose qui est très important comme médicament, mais qui là est détourné son usage pour éclaircir la peau. Le deuxième, ce sont les dérivés de l'hydroquinone. L'hydroquinone et ses dérivés, qui sont utilisés dans l'industrie chimique, dans plein d'industries, et qui sont les plus connus du grand public, qui sont pas forcément les plus dangereux d'ailleurs, mais qui peuvent quand même donner des taches indélébiles sévères. Et puis le troisième qui est très dangereux, heureusement on compte moins d'accidents parce qu'il est peut-être un peu moins utilisé, c'est le mercure et les dérivés du mercure. Voilà les trois grands produits qui sont utilisés et qui sont dangereux. Voilà.
Pour revenir à cet article, l'introduction mentionne une expérience qu'on appelle souvent l'expérience à la poupée, où un enfant, plusieurs enfants, noirs de peau ou métis, fait face à deux poupées, l'une noire, l'autre blanche, et on lui pose des questions sur ses préférences. C'est une expérience qui a démontré quoi et à quel moment ?
Dans mon souvenir, c'était des psychologues, un couple de psychologues américains au moment où il y avait des lois raciales aux États-Unis, enfin au moment de l'abolition des lois, avant l'abolition des lois raciales, dans les années 50. Oui, tu connais mieux l'histoire, Fabien.
Non, l'abolition c'est en 63 à peu près.
Enfin, voilà, je crois que dans les années 50, ouais. Effectivement, ont publié, j'ai jamais retrouvé la publication originale d'ailleurs, mais qui aurait, d'après ce que j'ai lu, publié donc les résultats d'une expérience où il montrait à des enfants des poupons, des poupées, des baigneurs, comme on dit, je sais pas comment on appelle ça, à peau claire ou à peau foncée, noir ou blanc, on va dire, et en leur demandant lequel était le plus sage, lequel était le plus intelligent, lequel était le plus gentil, lequel était, etc., etc. Et pour finir, à qui il ressemblait. Auxquels ils ressemblaient. Et donc, ça mettait les enfants, alors les enfants qui soient noirs ou blancs désignaient assez systématiquement le poupon blanc comme étant le plus beau, le plus intelligent, le plus élégant, le plus gentil et tout ça. Et puis, à la fin, quand ils devaient désigner à qui ils ressemblaient, ça mettait manifestement dans l'embarras, on va le dire comme ça, les enfants noirs qui hésitaient à se reconnaître dans celui qui était justement le moins beau, le moins intelligent.
Mais sur la réaction de ces enfants à la couleur de peau, on est vraiment dans le contexte d'une société très racialisée qu'était et que sont encore, de ce que j'ai entendu, les États-Unis. Mais bon, juste pour relancer Antoine sur les autres origines de cette volonté de dépigmentation de beaucoup de communautés à la peau foncée qui ne sont pas forcément liées à un aspect de sortie d'un contexte purement sociologique et racial où une communauté est dominée par une autre.
Pas dû à ça, mais...
Bah, tout à fait. Je pense qu'il y a une très grande variété, une très grande diversité des motifs des racines, on va dire, sociologiques, anthropologiques, historiques, de l'envie de s'éclaircir la peau. Je pense que c'est pas du tout la même chose, effectivement, pour des Africains-Américains, pour des Africains d'un pays d'Afrique de l'Ouest et pour une paysanne vietnamienne ou pour un Philippin.
Qui le justifierait comment, alors, dans le cas de la paysanne vietnamienne. Alors, il n'y a pas de supériorité toujours associée à la peau blanche.
La question de l'universel, c'est une question. Moi, je trouve qu'on se retranche derrière la question de l'universel. Hein.
J'ai pas prononcé ce mot.
Une supériorité. Vous avez dit toujours. C'est pour ça, c'est le toujours. Le toujours, ça serait oui. Peut-être pas toujours. Je pense qu'il y a des anthropologues qui ont travaillé notamment sur la valorisation de certaines peaux foncées. Et puis on le voit bien avec le bronzage, qu'il y a une valorisation de la peau foncée en Occident. Ce qu'on trouve assez facilement quand même, c'est une valorisation de la peau claire historiquement, parce qu'elle correspond à des classes sociales qui n'avaient pas besoin de travailler au champ, par exemple.
Très très rapidement, sur cette question-là, c'est un motif de consultation, les personnes qui viennent vous voir pour parler de l'éclaircissement de leur peau?
Juste, il y a autre chose, c'est que la peau noire a une spécificité, c'est qu'en vieillissant, les femmes qui ont la peau noire foncent. Ne rident pas forcément, mais foncent. Avoir la peau claire, c'est envoyer à nouveau le signal instinctif, je suis plus jeune. Par opposition à ce que le bronzage a fabriqué comme réflexe d'apparence, qui est bronzé égale jeune et en forme, traditionnellement, avoir la peau claire, c'est plutôt être plus jeune et donc plus attirante.
Mmh. Sur les personnes qui viennent consulter à Saint-Louis, cette question de la couleur de peau et de volonté d'éclaircissement de peau représente une quantité non négligeable.
Les gens ne... J'ai pratiquement jamais connu de patient qui venait me demander un truc pour éclaircir sa peau. En revanche, il y a des patients qui viennent me voir parce qu'ils pensent qu'ils ont des problèmes liés à l'usage des produits éclaircissants.
Ce musée a été créé surtout pour la pédagogie, hein, pour l'enseignement de la dermatologie. Et initialement, il y avait un médecin qui s'appelait Alphonse de Vergy, qui, vers 1860, voulait trouver un outil pédagogique pour la dermatologie, puisque c'est la première spécialité de l'hôpital, et qu'il y avait, fin 19e siècle, 5 services de dermatologie. Et donc, il avait fait réaliser des aquarelles pour les installer dans une galerie de l'hôpital, dans un passage un peu obligé pour les étudiants, pour que les étudiants puissent habituer leur œil à certaines maladies, déjà. Puisque l'œil en dermatologie est très important pour le diagnostic. Et il a fait réaliser quoi, une trentaine d'aquarelles, hein, et puis eh bien, il est parti en retraite. Et à sa suite est arrivé Charles Lallier, qui était bien sûr un dermato, et qui lui trouvait que c'était intéressant, mais que c'était un peu maigre comme outil. Et il a rencontré par hasard en 1863 Jules Barretta, qui était un artiste, qui exposait ses œuvres, qui étaient en fait des fruits en carton-pierre. Et il exposait ses œuvres dans une échoppe du 11e arrondissement, dans un passage du 11e arrondissement. Et quand Lallier a vu ses œuvres, il a eu l'idée de lui demander s'il voulait pas essayer de mettre au service de la médecine son savoir de modeleur pour tenter la reproduction des maladies de la peau. Comme on peut le penser, Barretta a dû être très étonné de cette proposition. Et il a réfléchi pendant 2 ans avant d'arriver à Saint-Louis pour tenter l'aventure, on va dire. Donc il est arrivé sur Saint-Louis en 1865. Pendant 2 ans, il a suivi les visites des médecins, les consultations, pour connaître un peu la dermato, puisqu'il n'était pas dans le milieu médical. Et puis aussi perfectionner sa technique, puisque le carton-pierre, c'était quand même un peu loin de ce qu'on lui demandait, puisqu'on lui demandait de faire des moulages sur les patients pour représenter les maladies de dermato telles qu'elles étaient à l'époque et pour l'enseignement des étudiants. Donc, il a réalisé son premier moulage ici en 1867. Et puis, rapidement, ça a pris de l'essor quand même. Et ces moulages ont été installés au début à côté des aquarelles, mais très rapidement, il n'y avait plus de place. Et en consensus, les médecins de l'hôpital ont proposé la construction d'un musée-bibliothèque dédié à la dermatologie.
Musée-bibliothèque dont parle ici Christine Bergot, qui en est la responsable. C'est un musée de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Fabien Guibal, vous disiez au tout début d'émission que l'imagerie et que la place de l'image dans l'enseignement de la dermatologie était aujourd'hui prépondérante et évidemment facilitée au regard de la manière dont ça vous a par exemple été enseigné il y a quelques dizaines d'années. Quand on a des images aussi précises, quel est l'intérêt de retourner voir des moulages aussi impressionnants dans ce musée ?
Voilà une question qui me plaît beaucoup, parce qu'elle nous amène à nouveau aux cinq sens. Et on s'aperçoit que la dermatologie, c'est pas forcément la vue, est bien sûr prédominante, et en plus on est des animaux qui utilisons essentiellement la vision. Mais il y a une question de matière aussi dans ces moulages. Il y a effectivement, on pourrait dire, une photo en 3D, un hologramme. Non, il y a quelque chose de physique dans ce que ces moulages réussissent à reproduire, qui transmet très bien ce que je ressens comme un voyage dans le temps. Quand on se promène dans les galeries, on a l'impression d'être transporté au 19e siècle et de mieux ressentir ce qu'était la charge de la maladie au quotidien pour l'immense majorité. La maladie était omniprésente. Alors évidemment, la dermatologie, c'est la plus visible, mais imaginez que l'époque où il n'y avait pas de dentiste, ce que c'était que le quotidien quand il n'y avait pas de dentiste. Des tout petits détails, ça nous le rappelle. Donc je ne saurais trop vous inciter, tous ceux qui êtes là avec nous, allez voir, ça prend en 20 minutes, on a fait le tour du musée, et vraiment c'est un retour en arrière de 130 ans, absolument fascinant à tout point de vue.
On en fabrique encore des moulages ?
Et non, c'est trop cher.
C'est trop cher. Vos internes, vos externes et vous-même, vous allez parfois visiter ce musée pour voir des moulages de certaines maladies de peau ?
On fait mieux que ça, on fait nos réunions professionnelles entourées des moulages. Vous imaginez ce privilège ?
Génial.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
14h51 sur France Culture, voilà plus d'un an que nous avons commencé non pas une collection de moulages, mais une collection de moments singuliers. À une personne pendant une semaine, nous demandons de raconter cinq expériences qui l'ont marqué ou la marquent encore, cinq choses importantes en somme. Cette semaine, nous avons posé cette question à l'artiste Claude Lévesque. Aujourd'hui, il parle d'une journée particulière en compagnie de Catherine Deneuve.
Elle m'a marqué à un moment donné comme ça, où j'ai eu le projet de faire un livre. Neverlette Lovin, j'ai eu l'idée de faire un livre comme ça parce que j'écrivais toujours des textes à droite, à gauche, quand j'avais envie, sans aucun objectif précis, mais j'aimais bien m'exprimer comme ça par les mots, et j'ai regroupé ces textes. À un moment, les textes, ils parlaient aussi beaucoup de mon territoire, de mon enfance, enfin, de moments de ma vie, de ma famille, et évidemment de la Nièvre, de Nevers, où j'ai vécu. Et puis, où dans la ville sont restées vraiment des traces, justement, de ce vécu, parce que la ville a été peu changée, mais on retrouve des quartiers de mon enfance qui n'ont vraiment pas bougé du tout, qui sont restés intacts. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'inviter Catherine Deneuve, qui est une actrice que j'adore vraiment. Je me suis dit, comme un gosse, comme ça, je me suis dit, je serais content de l'amener et puis de lui parler et en même temps de lui montrer les endroits de ma vie, de mon enfance, dans le coin de Nevers. Elle a accepté, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite bien entendu sur ses questions. Après elle est venue, on a passé une journée ensemble, on l'a emmenée en voiture, c'était rigolo. C'était vraiment un moment assez chaleureux et où on a vraiment eu un échange. Qui m'a vraiment surpris, parce que je pensais pas que cette personne très prise, très sollicitée, enfin une icône du cinéma, puisse se rendre disponible de manière aussi modestement, et qu'on puisse passer une journée ensemble. Et depuis, on a toujours quelquefois des contacts par téléphone, où on s'est vu pour quelques rencontres comme ça. Et c'est un enrichissement. Et en plus, on a un point commun fort, l'un et l'autre, c'est le jardinage, parce qu'elle est passionnée de jardin, de fleurs, elle connaît très bien les plantes comme j'ai rarement vu quelqu'un les connaître, toutes les plantes aussi bien sauvages que domestiquées, tout ça, elle m'a donné des conseils pour mon jardin. On a aussi cet échange là qui paraît complètement surréaliste et vraiment j'ai pas été déçu, parce que c'était en même temps une sorte de rêve. Après on peut être déçu de rencontrer une star, mais moi je pense que c'est une personne vraiment très particulière et qui a vraiment une espèce de modestie incroyable, tout en ayant une élégance, une sorte de façon de paraître, comme ça, qui peut vraiment mettre à distance. Et là, sur cette expérience de Nevers, où elle a beaucoup parlé, mais on a enregistré, et après on a retransmis nos échanges dans le livre, là, Nevers d'Etlovine, qui était important, c'était un regard aussi, qui n'était pas le mien, mais un échange comme ça sur quelqu'un, parce qu'aussi la raison du jeu, du cinéma, d'emmener cette actrice dans tel entre l'endroit pour les prises de vue et tout ça, amener un certain comportement face à ça. Puis elle a effectivement parlé aussi de sa vie, de ses moments, de son enfance. Il y a eu vraiment un échange étonnant. Et c'était, moi, je pense que c'était même important, au-delà de l'actrice Catherine Deneuve, que quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas ma vie, ni le territoire de la Nièvre, puisse avoir un regard. Et elle, ça me paraissait vraiment... Et ça a réussi, ça a été une expérience formidable. Il n'y avait pas du tout l'enjeu, elle... l'icône du cinéma français, puis moi l'artiste, enfin, il n'y a jamais eu cette espèce de côté-là. C'est peut-être justement ce qui a sauvegardé et préservé justement un rapport privilégié qui se fasse comme ça, sans être trop commandité, quoi.
De l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Party, party.
Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver.
Last night was made.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou
courtois. Where were you?
Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert, Paris.
La recette pas d'un gâteau d'amour, mais d'un cocktail chic donné par la voix de Catherine Deneuve, évoquée à l'instant par Claude Lévesque, ici en duo avec Malcolm McLaren pour le titre Paris, Paris. Un auditeur sur internet nous disait qu'il était à fleur de peau en écoutant notre émission, mais qu'il y avait un délai de 1 an avant qu'il puisse obtenir un rendez-vous avec un dermatologue. C'est aussi quelque chose qu'il faut dire, non, tous les deux?
Ah oui, c'est une réalité qui va changer petit à petit. Il faut simplement que le nombre de médecins qui aient terminé leur formation réaugmente. Il y a eu un creux pour des décisions qui concernent toutes les spécialités. Et la dermatologie s'occupant aussi de l'esthétique et les gens vieillissants, il y a de plus en plus de monde et pas plus de dermatologues, plutôt au contraire.
Appel aux étudiants, merci infiniment d'avoir été avec nous, Antoine Petit et Fabien Guibal, c'était passionnant de vous écouter.
Merci.
Les nouvelles vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour les réécouter, rendez-vous sur notre tout nouveau je parle plus français. franceculture.fr qui a fait Nouvelle Peau. On peut retrouver les nouvelles vagues aussi en podcast. Abonnez-vous, on peut se parler via Twitter, Facebook pour continuer d'échanger. Merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent ces émissions avec moi. Une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Alexandre Dang et au droit d'auteur Elisabeth Gournet.